Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit,
Alexandre Lemaire.
Bonsoir, l'essence toujours plus chère à la pompe. Le gouvernement réfléchit à un chèque carburant pour adoucir l'impact sur le budget des ménages. Invité ce soir sur Europe 1, Valérie Pécresse propose de supprimer 150 000 postes de fonctionnaires si elle est élue présidente. Vous l'entendrez. Jean Castex au Vatican pour un tête-à-tête avec le pape et un sujet incontournable, les abus sexuels dans l'église catholique. Il avait été le visage de la diplomatie américaine pendant les années W. Bush. Colin Powell est mort du Covid, il avait 84 ans. C'est peut-être la prochaine révolution numérique. Facebook va embaucher massivement en Europe pour créer un métavers, une sorte d'univers virtuel parallèle, explication dans ce journal. La météo de ce mardi verra les températures décoller au-delà des 20 degrés, point complet, avec Marlène Duret à suivre. L'invité éco à 22h20, Xavier Ursa, il est l'un des dirigeants d'EDF et on parlera nucléaire à l'heure où flambent les prix de l'énergie.
Europe 1.
Comment faire face à la flambée des prix du carburant? La question se pose pour des millions de Français. Elle s'est hissée en haut des priorités du gouvernement alors que les prix à la pompe atteignent de nouveaux sommets. Plus 2 centimes la semaine dernière. Le gazole au-delà maintenant d'1,55€. Le gouvernement cherche donc la parade et Bruno Le Maire pousse l'idée d'un chèque carburant, Maud Descamps.
Oui, le ministre de l'économie a plaidé ce matin pour un coup de pouce sous forme de chèque. Pour lui, baisser la fiscalité coûterait trop cher à l'État pour peu d'effets à la pompe.
Un centime de baisse du litre de carburant, c'est un demi-milliard d'euros. Mmh. Donc vous voyez bien que c'est très coûteux pour un résultat que les Français ne verront pas. En deuxième lieu, c'est injuste. C'est-à-dire que celui qui prend un gros 4x4 très motorisé qui fonctionne au diesel recevra la même compensation financière de l'État qu'une aide-soignante qui est obligée de prendre sa Clio pour sillonner les routes et faire son travail d'aide-soignante.
Cibler les bonnes personnes, c'est toute la difficulté de ce chèque carburant. Contrairement au chèque énergie, il est compliqué d'identifier les Français qui en ont réellement besoin, ceux qui ont vraiment besoin, par exemple, de leur voiture pour aller travailler. En tout cas, la hausse des dépenses pour le carburant est réelle pour les ménages. Sachez qu'aujourd'hui, vous payez votre plein de diesel 10 euros de plus qu'en janvier dernier. Et comme on dit que les Français font en moyenne 2 pleins par mois, ce sont 20 euros de plus par mois consacrés au carburant.
Oui, 20 euros par mois et par voiture, évidemment. Merci Maud Descamps. Tout cela, bien sûr, n'est pas neutre dans le budget des ménages. La grande distribution réagit pour un plein des 25 litres. Carrefour offrira jusqu'à la fin du mois un bon d'achat de 5 euros, tandis que Leclerc vend ses carburants à prix coûtant, sauf dans ses stations autoroutières. Invité ce soir de Laurence Ferrari sur Europe 1, Valérie Pécresse avance une solution. La candidate à la présidentielle aimerait que les entreprises soient par exemple autorisées à des coûts poussent défiscaliser pour aider leurs salariés à faire face à cette flambée des prix de l'essence, par exemple donc en étendant ponctuellement les forfaits kilométriques. Valérie Pécresse, qui dit sa détermination ce soir à faire revenir les Français vers les urnes, interrogée sur son programme, la candidate promet de supprimer 150 000 postes de fonctionnaires si elle est élue.
Il y a un certain nombre de Français qui se détournent de nous, donc il va falloir faire nos preuves, il va falloir aller les chercher, oui. Il va falloir leur dire que toutes les réformes que la droite a promis de faire, elle va les faire. Moi, c'est mon credo, je ferai la réforme de l'assurance chômage, je ferai la réforme des retraites, je ferai la réforme de l'État, je supprimerai 150 000 postes dans l'administration administrante, je débureaucratiserai vraiment, c'est-à-dire tout ce qu'on a promis, je le ferai. Alors vous allez me dire, c'est bien joli, vous dites que vous allez le faire, mais pourquoi vous le ferez ? Ben parce que dans ma région, je l'ai fait.
Valérie Pécresse ce soir dans Punchline avec Laurence Ferrari sur Europe 1. Comment accélérer la marche de la justice? Comment répondre aux accusations de laxisme? C'est tout l'objet des états généraux de la justice qui se sont ouverts aujourd'hui avec Emmanuel Macron à Poitiers. 5 mois de consultations à venir des professionnels de la justice et des citoyens pour aboutir à des propositions. Stéphane Place assistait au lancement de ces états généraux pour Europe 1.
Parfois un peu inaccessible.
Réinsertion.
Protection.
Compliqué.
Laxiste.
Petit clip d'introduction avec des témoignages de justiciables pour ouvrir ces états généraux ici au Palais des Congrès de Poitiers. Après avoir rappelé que le budget de la justice avait fait un bond de 30% durant son quinquennat, permettant de franchir le cap des 9000 magistrats, Emmanuel Macron a expliqué qu'il attendait des propositions concrètes de cette grande consultation.
Une phase nouvelle, celle de la modernisation de notre justice, et avec deux principaux objectifs. Celui de restaurer le pacte civique entre la nation et la justice. Le second, de garantir l'efficacité du service public de la justice.
Ce sont les deux plus hauts magistrats de France qui, voyant l'institution judiciaire sévèrement et régulièrement attaquée, ont réclamé au chef de l'État l'organisation de ces états généraux. François Molin, c'est le procureur général de la Cour de cassation.
On avait dit au président qu'il fallait à tout prix remettre la justice au cœur de la société. Je pense que le discours du président, il a été très ouvert. Il couvre l'ensemble des champs. La demande, c'est de réfléchir dans tous les champs du possible, sur tous les grands thèmes. Il faut plus de moyens, c'est certain, mais ce n'est pas qu'une question de moyens.
Et chacun peut s'exprimer depuis ce soir, proposer en passant par la plateforme désormais accessible sur Internet et baptisée Parlons Justice.
Stéphane Place à Poitiers pour Europe 1. Le rendez-vous était prévu de longue date. Jean Castex a rencontré le pape au Vatican et c'est surtout le rapport Sauvé sur les abus sexuels, accablant pour l'Église, qui a guidé les échanges entre le Premier ministre et le souverain pontife. 30 minutes en tête-à-tête ce matin. Jacques Serret, vous avez suivi Jean Castex au Saint-Siège. Est-ce qu'on sait ce qu'ils se sont dit ?
Oui, et le rapport Sauvé a bien fait partie de leur discussion. Le sujet n'a pas été éludé. Le pape était très informé, me confiait un proche du Premier ministre. Et lors de cet échange, le souverain pontife a indiqué au locataire de Matignon qu'il faisait confiance à l'Église de France pour tirer des conclusions. Le pape s'est aussi réjoui qu'il n'y ait pas de déni au sujet des abus sexuels dans l'Église. Autre point sensible, le secret de la confession. Il faut trouver les voies et les moyens pour concilier cela avec le droit pénal et le droit des victimes, a dit le Premier ministre au pape. Jean Castex est d'ailleurs revenu sur ce point cet après-midi au milieu d'un discours pour le centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Vatican.
La séparation de l'Église et de l'État, chacun le sait, ce n'est en aucun cas la séparation de l'Église et de la loi.
Un petit coup de pression de la part du Premier ministre qui, hors micro, fait tout de même savoir que cet échange était remarquable et apaisant. J'ai trouvé un pape joyeux, dynamique et avec de l'entrain, résume Jean Castex.
Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 au Vatican. Des sondages en quantité insondable. L'Élysée en avait acheté pour plus de 7 millions d'euros sans appel d'offres pour mesurer la popularité de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président. C'est tout le sujet du procès des sondages qui s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Les prévenus sont 5 proches de Nicolas Sarkozy, dont Claude Guéant, qui était son secrétaire général à l'Élysée. Nicolas Sarkozy lui-même n'est pas inquiété dans cette affaire grâce à son immunité présidentielle. Une immunité qui devrait aussi profiter à Claude Guéant. C'est ce qu'estime son avocat, maître Philippe Bouchez-Elgouzi.
Dans cette affaire, de quoi s'agit-il ? Le président de la République, Nicolas Sarkozy, a choisi d'avoir recours à des conseillers en opinion, à des instituts de sondage, et il a demandé que ce choix soit exécuté par son secrétaire général, Claude Guéant. Son secrétaire général s'est borné à exécuter les décisions, les actes du président. La Constitution garantit au président de la République une irresponsabilité en raison de ses actes. Est-ce que la poursuite n'est pas en contradiction avec la Constitution ? Ça sera l'objet que le tribunal aura à trancher. Alors une des questions qui se posait aussi, c'est que la partie civile, il veut forcer Nicolas Sarkozy à venir à la barre. Cette irresponsabilité, le président Sarkozy l'a indiqué dans une lettre qu'il a indiquée au tribunal, ne lui permet pas de venir devant ce tribunal. Et donc le président n'a pas à venir à cette audience, c'est ce que décidera demain le tribunal.
Maître Bouchez-Elgouzi, l'avocat de Claude Guéant avec Gladys Laffitte. Un couple d'enseignants menacés de mort dans plusieurs courriers. La première lettre envoyée le mois dernier contenait une photo de Samuel Paty samedi dernier, c'est-à-dire un an jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. Ce couple de professeurs de l'Académie d'Aix-Marseille a reçu de nouvelles menaces de mort. Une enquête est en cours.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Y aura-t-il une cinquième vague de Covid cet hiver ? Ce dimanche, la France a enregistré 35% de contaminations supplémentaires par rapport au dimanche précédent. Les effets de la rentrée des classes, la baisse des températures, peut-être aussi un certain relâchement dans les gestes sanitaires. Voilà autant d'éléments qui préoccupent les scientifiques. Pas d'alarmisme à ce stade toutefois pour l'épidémiologiste Philippe Amouyel.
Pour l'instant, l'épidémie est sous contrôle. Comme on est largement à moins de 5000 cas par jour, on peut bien maîtriser le tester, contrôler, isoler. En revanche, la transmission du virus existe toujours. Chez les enfants, il existe toujours une circulation de virus. Les enfants ne sont pas vaccinés. Donc on peut avoir en effet une augmentation du nombre de cas, mais comme cet été, probablement pas d'incidence ni sur les hospitalisations, ni sur les réanimations. Et c'est ce qu'on observe actuellement. Donc ce sont des fluctuations. Il faut absolument réduire cette circulation. Et pour ça, eh bien, il nous reste toujours les mesures barrières qu'on ne doit pas relâcher. C'est ce qui explique que peut-être les modifications de nos comportements depuis quelque temps, le masque, le pass sanitaire et bien sûr la troisième dose pour ceux qui en ont besoin.
Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, avec Romain Desarbres dans Europe Midi. Colin Powell est mort du Covid. L'ancien patron de la diplomatie américaine avait 84 ans. Après une brillante carrière militaire, il était devenu secrétaire d'État de George W. Bush, avec une ombre à son tableau, une tâche, disait-il lui-même. Dans son discours à l'ONU en 2003, Colin Powell avait présenté de fausses preuves pour justifier l'intervention en Irak, Alexis Guilleux.
Oui, le 5 février 2003, Colin Powell se présente devant le Conseil de sécurité de l'ONU, fervent défenseur d'une intervention en Irak. Le chef de la diplomatie américaine brandit une fiole d'anthrax devant ses homologues, preuve selon lui que le régime de Saddam Hussein produit des armes de destruction massive.
Nous avons des descriptions de première main d'usines mobiles d'armes biologiques qui permettent d'éviter la détection par les inspecteurs de l'ONU. Il ne fait aucun doute que Saddam Hussein possède des armes biologiques. Il a la capacité d'en produire plus, beaucoup plus.
Un mois plus tard, les États-Unis envahissent l'Irak sans l'aval de l'ONU, aucune trace de ces armes biologiques. En 2005, Colin Powell fait part de ses regrets sur CNN.
Je le regrette parce que les informations étaient fausses. Bien sûr que je le regrette. Mais il n'y a pas un mot dans ce discours qui n'ait été approuvé et validé par la communauté du renseignement.
Alors Colin Powell reste une figure populaire aux États-Unis. Après une jeunesse dans le Bronx, il devient le premier Afro-Américain chef d'état-major des armées pendant la guerre du Golfe. Dans les années 90, il hésite à se lancer dans la course à la Maison-Blanche avant de rejoindre l'administration de George W. Bush. L'ancien président salue aujourd'hui un grand serviteur de l'État. Colin Powell avait ensuite pris ses distances avec le Parti républicain en apportant son soutien à Barack Obama, Hillary Clinton et Joe Biden.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. C'est une porte ouverte vers le futur d'Internet. Facebook va recruter 10 000 personnes en Europe pour construire son métaverse, une sorte d'univers numérique parallèle. Essayons de mieux comprendre avec vous, Clément Le Saff, qu'est-ce qui se cache exactement d'ailleurs ce projet de métaverse ?
Eh bien, le métaverse, contraction de méta-univers, c'est un monde virtuel dans lequel les gens pourront se retrouver pour discuter et faire des activités ensemble tout en étant à des endroits différents sur Terre. C'est le dernier rêve en date des gourous de la Silicon Valley, Mark Zuckerberg en tête, rêve que le patron de Facebook a d'ailleurs défini dans une interview au site américain The Verge.
Vous pouvez voir le métavers comme un Internet incarné. Plutôt que de regarder des contenus, vous serez présent directement dedans avec d'autres personnes. Vous vivrez des expériences en ligne que vous ne pourriez pas vivre sur une application ou sur une page web, comme danser par exemple.
En fait, c'est le principe des réseaux sociaux, sauf que le concept va encore plus loin. Le métaverse aura recours à la réalité virtuelle avec les casques qui permettent de s'immerger dans un monde 2.0, mais aussi la réalité augmentée ou les mécaniques propres aux jeux vidéo. Fortnite, le jeu en ligne aux 300 millions de joueurs, a lui déjà bien avancé sur le métaverse. Par le biais de son avatar, on peut aujourd'hui assister à des concerts, visiter des expos virtuels, entouré de millions de joueurs du monde entier. Le potentiel commercial est donc énorme et c'est pour ça que Facebook investit énormément aussi vite pour avoir la plus grosse part du gâteau.
Merci Clément Le Saffre. Voilà l'hologramme de votre cousin d'Amérique assis à côté de vous sur le canapé. Ce sera peut-être bientôt plus de la science-fiction. Il est l'un des favoris cette année pour recevoir le sacre de la planète foot sur Canal+. Karim Benzema rêve à voix haute maintenant du Ballon d'Or.
Ça serait parmi les nombreux rêves que j'ai depuis petit. Mes idoles, que ce soit R9 ou Zizou, sont venus au Real, je suis venu au Real, ils ont gagné le Ballon d'Or. C'est les petites choses à quoi je repense et qu'aujourd'hui, voilà, je suis pas très loin.
Et oui, il se sent tout près du but, Karim Benzema, sur la route du Ballon d'Or. Il faut dire qu'il a largement ses chances, Cyril de la Morinerie.
Oui, Karim Benzema a ses chances. L'avant-centre de 33 ans s'est fait remarquer en équipe de France. 2 buts inscrits lors de la phase finale de la Ligue des Nations, 4 pendant l'Euro et un premier trophée remporté avec les Bleus. La Ligue des Nations donc, et surtout c'est lui qui porte le Real Madrid. Hein. C'est le 5e meilleur buteur de l'histoire du club espagnol. Benzema a reçu le soutien du Real Madrid, mais aussi de son père spirituel Zinedine Zidane, de Didier Deschamps, ainsi que du légendaire brésilien Ronaldo. C'est donc la meilleure chance française devant Mbappé et Kanté pour ce Ballon d'Or. Mais Karim Benzema n'a soulevé qu'un trophée honorifique avec les Bleus. En face, Lionel Messi s'est adjugé la Copa América avec l'Argentine. Il reste le mieux placé pour remporter un 7e Ballon d'Or. Jorginho a lui gagné la Ligue des Champions avec Chelsea et l'Euro avec l'Italie. Quant à Robert Lewandowski, c'est la terreur des gardiens de but avec 41 buts inscrits en 29 matchs en Allemagne avec le Bayern Munich la saison dernière. Bref, Karim Benzema risque de terminer sur le podium comme Griezmann et Ribéry avant lui. Mais auparavant, Karim Benzema doit livrer un autre combat, hein, défendre son honneur lors du procès de la Sextape qui s'ouvrira dès mercredi au tribunal correctionnel de Versailles.
Merci Cyril, et le Ballon d'Or sera remis le 29 novembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. Voyons le temps pour ce mardi.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur? Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
Eh bien demain, Marlène Duret, on peut s'attendre à une très belle journée.
Oh oui, on peut le dire Alexandre. C'est vrai qu'on a des pluies là qui sont arrivées aujourd'hui par le nord-ouest. Les pluies de la perturbation qui continuent de traverser le pays en direction des frontières du nord, eh bien, on va les retrouver simplement demain matin du Nord-Pas-de-Calais au Bas-Rhin en passant par les Ardennes et le nord de la Lorraine. Et puis elles laisseront place l'après-midi à un temps sec avec de belles éclaircies. Des entrées maritimes, il faut quand même le dire, poussées par le vent d'OTAN, pourront donner quelques petites pluies du golfe du Lion vers le midi toulousain, le haut Languedoc jusqu'au delta du Rhône en journée. Et puis elles vont se dissiper sur le midi toulousain uniquement en cours de matinée. Partout ailleurs, oui, là ce serait une belle journée. Alors temporaire, malheureusement on change de temps à partir de mercredi. Mais enfin bon, en attendant, les températures sont vraiment agréables.
Qui décolle là, oui.
Quelle douceur, surtout dans le sud-ouest. Hein, parce qu'on a relevé seulement 10 degrés à Strasbourg cet après-midi contre 26 dans le Pays Basque. Et là, les températures vont continuer à monter demain. D'ailleurs, on attend 18 à 22 degrés sur le quart nord-est. Généralement, sur le reste du pays, 22 à 26. Et puis, ça va monter jusqu'à 26, 28 en Aquitaine, dans les Charentes, jusqu'à 30 degrés même au pied des Pyrénées. On notera par exemple 26 à Cognac, 27 à Bordeaux et Tarbes, 28 à Biarritz, Mont-de-Marsan, Pau, Hendaye, 28 degrés à Saintes, en Charente-Maritime. Vous savez pourquoi ?
On retourne à la plage, là.
C'est... Presque, oui, au moins pour une journée. On a de l'air quasi tropical qui a traversé l'Atlantique, donc de l'air chaud et humide en provenance des Antilles. Et puis, c'est conjugué aussi un petit effet de fun là, du côté des Pyrénées. Cette douceur-là aussi n'est que temporaire et un rafraîchissement brutal est à prévoir pour tout le monde. On va le sentir surtout jeudi et vendredi avec une moyenne de 13 degrés au nord et 16 au sud.
Merci beaucoup Marlène. Rendez-vous avec vous à minuit pour un dernier point météo. On marque une pause. À suivre Top à Wall Street avec Didier Hamo. L'invité éco à 22h20 sera Xavier Ursa. Il est l'un des monsieur nucléaires à EDF. A tout de suite.
Europe Nuit. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Avec Top à Wall Street, nous sommes avec Didier Hamo. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Début de semaine hésitant à Wall Street, hein, malgré la hausse des valeurs de technologie.
Oui, un début de semaine partagé entre une petite baisse du Dow Jones et une hausse du Nasdaq. Le Dow Jones recule de 0,10%, 35 259 points. Le Nasdaq, l'indice des valeurs de technologie, reprend 0,8% à 15 022 points. Le marché hésite à l'écoute des résultats trimestriels des groupes américains. Pour le moment convenable. Les technologiques progressent. Donc Microsoft plus 1%, 307 dollars. Apple plus 1,2%, 146,55 $. Le groupe Apple a annoncé de nouveaux ordinateurs Mac haut de gamme. Amazon gagne aussi 1,1%, 3,446 $. Amazon qui va recruter 150 000 saisonniers pour la saison des fêtes aux États-Unis. Et puis Facebook qui se distingue, vous en parliez tout à l'heure avec...
Le métavers.
Exactement, bah, ça plaît beaucoup à la bourse. Hein. Plus 3,3%, Facebook remonte à 335,35 $. Le pétrole aussi culmine à plus de 84 $ le Brent, alors que l'OPEP n'a pas réussi à pomper assez de pétrole en septembre pour atteindre ses objectifs, ce qui explique aussi la tension des cours du brut. L'euro campe plus calmement sur les 1,16 face au dollar ce soir.
La bourse de Paris, Didier, a mis fin à 3 séances de hausse consécutives.
Oui, il fallait que ça se termine. Moins 0,8% après une belle série. Hein, plus effectivement 3 séances de hausse consécutives. Donc ce soir, on baisse de 0,81%. 6673 points. Le CAC 40 en repli de 0,8%. La déception en provenance de la croissance chinoise en particulier, tombée à moins de 5% cet été, a pesé sur le secteur du luxe, très exposé à l'économie chinoise. Kering recule de 2%, LVMH aussi redescend de 2%. Le secteur automobile a encore été secoué en raison de la pénurie persistante des puces électroniques, des composants électroniques. Ça donne Valeo en baisse de 2% ce soir, Renault moins 1,8% à 32,59 €, et Stellantis, l'ancien Peugeot, moins 1,8% à 16,88 €.
Exception du jour enfin, le secteur pétrolier poursuit sa progression.
Toujours, encore, donc dans le sillage du baril de brut à plus de 84 $. Le Brent, toujours au sommet depuis 7 ans. On a Total Energy qui remonte de 0,4% à 44,65 €. Technip Energy est stable, ferme en hausse à 14,50 €. Et puis, Dans son dernier rapport, l'Agence internationale de l'énergie a revu en hausse ses prévisions de demande mondiale de brut. Faute de gaz et de charbon, ça explique évidemment cette pression, cette tension sur les prix du brut. 84 $ ce soir, le baril. Les autres places financières sont en repli. Léger repli de 0,2% à Francfort, moins 0,6% à Bruxelles, moins 0,8% à Milan. Le CAC 40 en baisse donc de 0,81%. 6673 points.
Merci Didier Hamot de Boursier.com. Je vous en parlais en début de journal, les nouveaux records des prix à la pompe. On va s'intéresser maintenant aux tarifs de l'électricité alors que l'hiver approche. L'invité éco ce lundi soir, on retrouve Xavier Ursa, directeur exécutif d'EDF en charge de l'ingénierie et du nouveau nucléaire. Il était l'invité de La France Bouge à la mi-journée sur Europe 1. Xavier Ursa répond à Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil.
Bonjour Xavier Ursa.
Bonjour.
Vous êtes le directeur exécutif d'EDF, en charge des nouveaux projets. Vous êtes aussi le président du GIFEN, c'est le syndicat professionnel de la filière nucléaire. C'est la première fois qu'EDF prend la parole depuis l'annonce la semaine dernière du plan d'investissement pour 2030. Le nucléaire est au centre de ce plan. Le président de la République parle même d'une filière d'avenir. Ce n'était pas gagné. Xavier Ursa, vous êtes rassuré ?
Nous sommes sereins et je dirais que nous n'avons jamais douté du côté d'EDF que le nucléaire était une énergie d'avenir. Ça fait plusieurs années que nous expliquons que pour aller vers moins d'émissions de CO2 dans l'atmosphère, ce qui est tout à fait fondamental dans le cadre de la lutte pour le changement climatique, il nous faut du nucléaire et il nous faut des énergies renouvelables. Et je crois que le contexte actuel montre bien les atouts du nucléaire, cette capacité à assurer une stabilité des coûts, à assurer une indépendance énergétique, on en reparlera certainement parce que, j'ai envie de dire malheureusement, c'est un sujet qui devient de plus en plus concret, et puis ces faibles émissions de CO2 qui seront évidemment un atout pour la lutte contre le changement climatique.
Vous parlez d'une stabilité des coûts. Pourtant, s'il n'y avait pas une mesure du gouvernement, les prix de l'électricité auraient dû augmenter au début de l'année prochaine de plus de 10%. Est-ce que c'est vraiment sûr et stable le nucléaire alors qu'on produit chez nous du nucléaire et logiquement assez pour nous fournir ?
Cette question des coûts et des prix de l'électricité en fait est une question assez complexe. Si je peux l'expliquer à nos auditeurs en une minute simplement.
Et de façon simple.
Et de façon simple, il se superpose deux aspects. Une dimension européenne et puis une dimension ensuite nationale dans chaque pays européen. En fait, à l'échelle européenne, tous les réseaux d'électricité sont interconnectés entre eux. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il s'établit des prix du marché de manière conjointe au niveau européen. Et évidemment, quand l'électricité augmente structurellement dans un pays, par exemple parce qu'on produit l'électricité à partir du gaz dans un pays et que le gaz coûte de plus en plus cher, ça se ressent un peu partout en Europe. Donc il y a une tendance générale à l'augmentation des coûts en Europe. Après, certains pays sont plus protégés que d'autres du fait de leurs outils de production électricité. En France, le parc nucléaire d'EDF, qui fonctionne bien, agit aussi comme une sorte de bouclier contre ces augmentations tarifaires. Effectivement, il y a des hausses de quelques pourcents, voire un peu plus
voilà,
en France,
mais si
vous, ça peut aller jusqu'à un peu plus que ça. Mais si vous comparez avec nos voisins européens, l'Italie, l'Espagne, là on parle sur un an de hausse de 30, 40, 50%, ou même une hausse de 100%, un doublement en Allemagne. Donc il y a un effet européen sur les prix, mais ensuite chaque pays est plus ou moins protégé. En France, le nucléaire protège.
Alors Xavier Ursa, on va être concret aussi sur ce plan qui a été présenté par le président de la République il y a quelques jours. Ce plan va surtout permettre de développer dans un premier temps des petits réacteurs nucléaires. On les appelle les SMR. Alors d'abord, c'est quoi ces petits réacteurs ?
Alors jusqu'à présent, la tendance générale dans le nucléaire, c'était plutôt de faire des gros réacteurs de forte puissance, pour une raison assez simple en fait, c'est que de manière évidente et tout à fait justifiée, les règles de sûreté vont à la hausse. Donc nous installons de plus en plus d'équipements pour garantir la sûreté dans les centrales, et donc c'est un peu plus cher. Et pour éviter de trop monter les coûts, finalement, on augmente la taille des réacteurs. C'était l'idée générale. Là, il y a une autre idée en fait, qui a un certain engouement partout dans le monde, c'est de construire des plus petits réacteurs, mais alors avec l'idée d'en faire des dizaines, de manière finalement à retrouver les économies, non pas sur la taille du réacteur, mais sur le fait d'en faire plein et donc d'avoir une usine à les fabriquer. Voilà. Et en fait, le SMR, c'est donc un réacteur de petite taille qu'il faudra fabriquer en de nombreux exemplaires.
Alors si on doit caricaturer, c'est un peu la Clio du nucléaire, d'une certaine manière, c'est le produit d'entrée de gamme qu'on doit réussir à dupliquer un petit peu partout. L'idée, c'est pas d'en avoir des centaines sur le sol français, l'idée, c'est d'en installer quelques-uns chez nous pour faire de la France un showroom, pour que derrière, vous disiez aux clients étrangers, venez voir là, ça marche chez nous et vous pouvez nous en acheter des dizaines.
Alors en effet, en France, notre idée est plutôt qu'il faut d'abord prolonger la durée d'exploitation du parc existant, qui fonctionne très bien, je le disais tout à l'heure. Nous pensons qu'il faut faire des nouveaux réacteurs de forte puissance, et nous avons fait une proposition à l'État dans ce sens, et en effet, nous imaginons qu'il faudra installer au moins un réacteur de type SMR en France, en complément, on pourra en faire plusieurs en complément. L'idée est plutôt d'adresser le marché international, et nous visons en fait une taille de réacteur qui correspond à la taille de la plupart des centrales au charbon, au fioul, qui existent partout dans le monde, et qu'il faudra remplacer probablement très vite dans la décennie 2030-2040, parce que, un, elles seront vieilles, et deux, parce que le changement climatique nécessitera d'enlever ces cheminées à CO2 que sont les centrales au charbon ou au fioul.
Mais c'est nous aurons cette... malgré...
Ils viendront les remplacer, à la limite sur le même site, en utilisant le même réseau électrique, vous voyez, donc on peut aller assez vite, finalement, pour décarboner un pays avec des SMR.
Mais là, on est au tout début du projet, là, on est dans la première phase d'étude.
Là, nous sommes dans le début du projet, en effet, dans la première phase d'étude, nous travaillons avec plusieurs partenaires, le CEA, nous travaillons aussi avec Technique Atom, avec Naval Group, et nous sommes en début de projet. Notre but est de pouvoir avoir un premier chantier qui débute en France en 2030 à peu près.
Mais on est en retard déjà, parce qu'il y a déjà des SMR en Russie et les Américains et les Chinois sont largement plus en avance que nous. On peut rattraper notre retard et pas rater ce virage technologique ?
Il y a trois pays qui sont très actifs dans les SMR, à côté de nous, les États-Unis, la Chine et la Russie. Toujours les mêmes pays d'ailleurs qui sont en concurrence avec nous dans le nucléaire civil.
Et sauf que là on a pris un sacré retard quand même.
Et on a beaucoup accéléré. Et on a fait un choix qui est finalement de concevoir un SMR avec quelques innovations technologiques, mais à partir du retour d'expérience des réacteurs que nous avons déjà. Je vais citer un chiffre qui peut-être parlera à nos auditeurs. EDF en France, avec son expérience sur les réacteurs en fonctionnement, a 2000 années réacteurs d'expérience. C'est-à-dire que c'est comme si nous avions vu fonctionner un réacteur pendant 2000 ans avec toute l'expérience que nous avons. Nous avons emmagasiné cette expérience pour en tirer le meilleur, pour faire un petit réacteur qui arrivera à maturité assez vite.
Oui, mais donc comme nous le avons disait Elisabeth, pour le moment, ce réacteur, il est
en phase d'essai.
Voilà, il est grosso modo à l'échelle d'un papier pour le moment.
Et pour le moment, il est en phase d'étude.
Et quand on voit comment aujourd'hui on fabrique nos EPR, on peut se dire, oula, le plus dur commence là.
Vous savez, nous avons deux EPR qui fonctionnent en Chine.
Oui,
nous sommes partenaires d'un projet.
Toujours arrêté parce qu'il y a un petit problème.
Bon, c'est des choses qui arrivent sur ces réacteurs. Ces deux réacteurs ont fonctionné de manière extraordinaire dès leur première année de fonctionnement. Il faut aussi retenir ça. Vous savez, le réacteur Taishan 1, le premier qui a fonctionné, dès sa première année de fonctionnement, il a été le réacteur nucléaire dans le monde qui a produit le plus d'électricité. Nous en développons également avec des exigences de qualité très très élevées.
On a passé pensé à nos compétences pour fabriquer ces centrales, puisqu'on a bien du mal à les faire.
C'est pas tellement qu'on a du mal à les faire, c'est qu'en fait,
on s'est fixé sur
Flamanville des exigences de qualité qui sont extraordinaires.
Tant 2023, prévu, ça marche toujours pour l'ouverture de Flamanville.
2022, on chargera le combustible à Flamanville.
On chargera, c'est sûr. C'est sûr.
On chargera le combustible à Flamanville. Toute l'équipe est mobilisée sur ce planning.
Merci Elisabeth, merci Emmanuel. On vous retrouve demain de 13h à 14h pour La France Bouge sur Europe 1. Votre invité sera le patron de Simplon, ces fabriques du numérique qui permettent à ceux qui sont le plus loin de l'emploi, eh bien justement de se former à ces métiers du secteur du numérique.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Avec un coup d'œil aux unes de vos quotidiens pour ce mardi 19 octobre, Emmanuel Macron choisit de s'afficher en défenseur du nucléaire. Remarque Le Figaro, le chef de l'État veut annoncer avant Noël la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR et relancer ainsi le débat sur le mix énergétique. On remarque déjà dans cette pré-campagne présidentielle combien compte cette question du nucléaire. Tous les candidats se prennent position, surtout alors que la hausse brutale des prix des énergies fossiles redonne un net avantage à l'atome. L'atome dans la France, depuis le général de Gaulle, a fait une priorité énergétique. Et justement, avec la hausse des prix des carburants, de l'énergie, le thème du pouvoir d'achat des ménages devient central en corollaire de cette question du nucléaire. La question des salaires à la une des échos, c'est le casse-tête des entreprises. Pénurie de main-d'œuvre et inflation pèsent maintenant sur les négociations salariales. Et une fois de plus, eh bien, c'est le secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui se retrouve sous pression. Libération se penche sur ces gauches qui parle aux jeunes, Raphaël Glucksmann avec son livre, François Ruffin avec son film. Ces deux figures de la gauche hors les murs, écrit Libé, candidat à rien, attire maintenant une génération en quête d'engagement, mais parfois éloignée des urnes. Les Européens et l'ombre de la dette, enfin, la une de la Croix. La Commission de Bruxelles ouvre la discussion sur une réforme du pacte de stabilité qui est actuellement suspendue du fait des lourdes dépenses engagées dans la lutte contre le Covid, mais tout cela, évidemment, n'est que provisoire. 22h30, vous êtes sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes avec Olivier Delacroix pour la Libre Antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Alexandre.
J'aime beaucoup vos lunettes.
Mais oui, j'ai perdu mes lunettes ce soir. Enfin, je les ai oubliées. Et mon collaborateur et ami Florian a toujours une petite paire de lunettes un peu 70, mais très féminine, comme ça.
Non, mais vous allez vous en sortir.
Bon, j'en suis parfait. Je suis sûr. Et puis la radio a cet avantage qu'on ne voit pas ma tête de mouche ce soir.
Je ne dirais pas jusque-là.
Non, non, bah, vous êtes gentil, mais c'est pour ça. Non, mais écoutez, tout va bien. On est en forme. Et puis jusqu'à 1h du matin, on va essayer de passer un moment excellent avec toute cette communauté de la Libre Antenne. Et nous, on se retrouve
à 23h
pour le flash. À tout à l'heure,
Olivier.